morning edition from NPR News.
Das sieht hieß an Kinderhaus.
France Inter, le 18-20.
Et c'est en Hongrie que je vous emmène ce soir, la Hongrie qui vote pour ses législatives dimanche. Viktor Orban a de grandes chances de rempiler, mais la guerre en Ukraine à sa porte a fait bouger la campagne. Interroge aussi sur la solitude d'Orban en Europe, maintenant que les Polonais se sont plus rapprochés de nous. Le bruit du monde, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet. On retrouvera Natalia, la Russe. Vous vous souvenez qu'elle nous disait « tout le monde nous déteste ». Eh bien, elle est dans un train ce soir, un peu plus loin de Saint-Pétersbourg. Nous irons aussi, grâce à Géraldine Allot, voir la difficulté du travail des ONG qui doivent réunir des preuves de crimes de guerre sur le terrain. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legenie a trouvé le procès le plus brumeux d'une Australienne à Pékin. Un élu d'extrême droite qui s'enferme au Parlement au Brésil et un coming out applaudi aux communes à Londres. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Bouin qui vous racontera comment les 27 veulent que tous nos produits, du smartphone jusqu'au débardeur, affichent leur provenance et leur durée de vie. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four. Demain, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde de foot et le Qatar est en train de gagner son grand pari diplomatique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Corentin Léotard, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes correspondant à Budapest, rédacteur en chef du Courrier de l'Europe centrale. Entre les mains, j'ai la Hongrie sous Orban, un ouvrage collectif que vous avez dirigé aux éditions Plein Jour. Une belle immersion dans la Hongrie d'Orban, que vous appelez d'ailleurs le laboratoire populiste d'Europe centrale. On rejoindra Florence Labruyère à Budapest dans un tout petit instant. Corentin Léotard, les élections législatives en Hongrie, donc dimanche prochain, ont évidemment pour toile de fond la guerre en Ukraine. On va y revenir très vite. Avant cela, pour planter un peu le décor, les chances d'une nouvelle victoire d'Orban, elles restent évidemment très grandes. En même temps, le scrutin est plus serré. Ce qui est assez inédit, c'est cette alliance totale de l'opposition contre lui qui fait en tout cas bouger un peu les chiffres.
Oui, c'est vrai, pour la première fois, Viktor Orban va devoir affronter un front uni d'opposition qui a été constitué par six partis. Qui espère pouvoir l'emporter dimanche, mais même à 6 contre 1 contre Viktor Orban, l'affaire est loin d'être gagnée, et quand même Viktor Orban reste le grand favori des sondages, et pour venir ici dans le 8e arrondissement où je me trouve en ce moment, j'ai pu constater dans la ville à quel point la propagande gouvernementale est vraiment partout et écrase vraiment celle de l'opposition. Le Fidesz a engagé 12 millions d'euros rien qu'au mois de mars pour mettre des affiches dans la ville contre 1 million pour l'opposition. Donc ça montre vraiment le déséquilibre des forces en présence.
Et une mainmise, Corentin Léotard, sur les médias de la part du camp Orban qui laisse là aussi assez peu de chance à l'opposition.
Voilà, l'opposition n'a pas accès aux médias publics. Hein. Le chef de l'opposition a eu droit à ses 5 minutes légales de campagne il y a quelques jours, mais sinon, depuis 4 ans, il n'avait jamais été invité par les médias publics qui sont une machine de propagande effrénée au profit du Fidesz. Et donc, voilà, l'opposition, tout ce qu'elle est condamnée à faire, c'est des forums de rue qu'elle multiplie dans la ville et aux quatre coins du pays pour essayer quand même de faire passer ces messages tant bien que mal auprès des citoyens.
Alors dites-nous quand même, qui est ce Peter McKeyzer, son challenger, qui reste au fond dans un camp assez conservateur, on ne va pas le qualifier d'homme de gauche avec nos critères à nous, on va dire, ça veut dire, cela dit, qu'il peut siphonner un peu des voix d'Orban quand même, mais est-ce qu'elle est solide, cette alliance de tous les partis, ou est-ce qu'on se dit qu'elle est faite plutôt de briques et de brocs, précisément pour faire un front uni face à Orban?
Cette alliance, elle est quand même relativement solide. Elle avait permis en 2019 de remporter, de reprendre Budapest et de nombreuses villes aux mains du Fidesz. Peter Markizai, lui, c'est le maire d'une petite ville. Il se dit chrétien, conservateur. À la différence de Viktor Orban, par contre, il est très pro-européen et même fédéraliste. Lui, ce qu'il ne supporte pas chez Viktor Orban, c'est la corruption généralisée. Et la propagande est teintée d'hypocrisie du pouvoir. Mais derrière lui, il faut bien voir quand même qu'il y a toute une coalition de partis sociodémocrates, écologistes, de gauche et libéraux qui ont élaboré un programme commun avec lui. Donc la figure de Peter Markizai est certes importante pour mener la campagne, mais ce qui va surtout être important, c'est le rapport de force au Parlement le lendemain des élections.
Alors est-ce que vous diriez quand même, et c'est ce qui va peut-être changer le rapport de force, comme vous dites, est-ce que vous diriez que la guerre en Ukraine a été, je vais y mettre évidemment beaucoup de guillemets, une aubaine pour l'opposition, c'est-à-dire donner une vision d'Orban comme étant à la botte de Poutine? Est-ce que ça a permis de changer intégralement la conversation de cette campagne?
Non, évidemment, au déclenchement de la guerre, c'était le réflexe inné de tout le monde de se dire que voilà, maintenant Viktor Orban est vraiment dans la mouise, parce qu'il va payer sa proximité idéologique et diplomatique avec Vladimir Poutine. Or, on constate que c'est pas ce qui se passe. On sait bien qu'en temps de guerre, les électeurs ont tendance à se scinder, à se réunir derrière la personne qui dirige, et c'est Viktor Orban qui est aux commandes. La guerre en Ukraine a vraiment écrasé toute la campagne. Et après quelques jours d'hésitation du pouvoir, il y a quand même une machine de communication qui s'est mise en branle pour présenter Viktor Orban en homme de paix et comme le seul capable de protéger la Hongrie, tout en véhiculant des mensonges éhontés qui consistent à dire que la gauche, c'était le camp de la guerre et que Viktor Orban, lui, c'était le camp de la paix. Donc c'est vraiment le message qui est asséné depuis, et c'est l'enjeu de ces élections présentées par le Fidesz, c'est la guerre ou la paix.
Alors, mais ce qui est intéressant, Corentin Léotard, c'est que on se souvient très bien que Zelensky, il y a très peu de temps, quand il a parlé au Conseil européen, il a lancé précisément en direction de Viktor Orban, il a dit « Viktor, est-ce que tu sais ce qui se passe à Mariupol ?» Alors, on imagine qu'Orban sait très bien ce qui se passe à Mariupol. On parlait tout à l'heure de la mainmise des médias chez vous en Hongrie. Moi, je me demande si les Hongrois savent vraiment, en fait, lorsqu'ils regardent notamment les médias d'État, s'ils savent quel est l'état de la guerre de l'autre côté, quasiment à leur porte.
Alors oui, les médias d'État ne cachent pas qu'il y a une guerre, il y a des images. Par contre, ils prennent soin de ne pas désigner un agresseur Poutine et un agressé l'Ukraine de Zelensky. Donc on renvoie au mieux les deux belligérants dos à dos, et quand même insidieusement on véhicule le discours que Zelensky et l'Ukraine l'ont quand même un peu cherché, et que derrière il y a la main de Washington qui manipule les choses.
Mais qu'est-ce qui passe de la propagande russe, par exemple ? Est-ce que le pays nazi, par exemple, c'est quelque chose qui a réussi à passer la frontière ? Est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est une sorte de neutralité, en fait, que défend Orban ? Est-ce qu'il se défend quand même de soutenir l'offensive russe ? Sur quel genre de ligne de crête il marche ?
Alors, Viktor Orban, lui, il a condamné l'agression russe. Il s'est quand même rangé derrière les sanctions européennes, et il a aussi permis à l'OTAN d'installer un groupe tactique sur les territoires hongrois. Donc de ce côté-là, voilà, Orban, il n'avait pas le choix, donc il a montré sa loyauté quand même vis-à-vis de l'UE et l'OTAN. Par contre, oui, au niveau du discours domestique, c'est comme je vous dis, on est la neutralité, on est le camp de la paix, mais vraiment insidieusement. Et ça fait depuis des années quand même qu'on le voit. Il y a quand même les médias de propagande hongrois relaient quand même la propagande du Kremlin. Alors on va pas jusqu'à dire que les Russes sont venus dénazifier l'Ukraine. Mais il y a aussi un contentieux entre Kiev et Budapest qui remonte à plusieurs années, qui concerne la minorité hongroise d'Ukraine, qui se dit aussi inquiète du nationalisme ukrainien que de l'agression russe. Donc voilà, ça permet aussi à Viktor Orban de présenter les choses de façon tronquée, de montrer que les Ukrainiens sont aussi une menace pour les Hongrois de cette minorité.
Et ce qu'il faut souligner aussi, Corentin Léotard, c'est que le gaz hongrois est à 90%, c'est du gaz russe. Il y a même eu des aides pour payer le gaz qui ont été mises en place par Viktor Orban, peut-être en catastrophe. J'imagine que ça compte beaucoup aussi, ce chiffre-là.
Mais en fait, depuis 2013, les Hongrois ne payent pas le prix du gaz au prix du marché. L'État a imposé des baisses des charges sur le gaz, l'eau, l'électricité, qui sont relativement importantes. Et tous les Hongrois peuvent voir sur la facture chaque mois le montant économisé depuis 2013. Et c'est vrai qu'encore le 1er février, Viktor Orban est à Moscou pour s'assurer des livraisons de gaz à prix d'amis, qui sont vraiment pour lui le pilier de cette politique très efficace en termes électoraux, qui consistait à réduire les prix de l'énergie. Et c'est aussi ça qui est dans la balance dans ce qui se joue actuellement et dans le grand écart que fait Viktor Orban entre Bruxelles et Moscou.
Alors, Corentin Léotard, vous allez rester avec nous. Je voudrais qu'on aille faire un tour justement dans les rues de Budapest où Florence Labruyère a tout simplement demandé aux Hongrois ce qu'ils attendaient de ces élections et leur division. D'ailleurs, on y viendra. On les entend très clairement. Écoutez, et on se retrouve juste après.
Voter pour Viktor Orban, c'est choisir Poutine. Voter pour moi, c'est choisir l'Europe. C'est le slogan de Peter Markizai, le candidat de l'opposition qui espère s'asseoir dans le fauteuil de Premier ministre. Andrash est ingénieur, il a 34 ans et il veut changer de gouvernement.
Il faut restaurer la liberté de la presse et la libre entreprise parce que les oligarques, les amis d'Orban sont partout. On devient comme la Russie. Si ça continue, bientôt la police nous jettera en prison parce qu'on manifeste contre Orban.
Monica aimerait, elle aussi, voir l'opposition gagner les élections pour stopper la corruption.
Ce serait très important de récupérer les biens publics volés par ce gouvernement. Certains sont devenus milliardaires en un rien de temps.
Peter Markizai, le rival d'Orban, est un conservateur atlantiste et pro-européen. À la télévision, il déclare qu'il serait prêt à envoyer des armes et des soldats en Ukraine si l'OTAN le demandait. Viktor Orban profite aussitôt de ses propos maladroits pour présenter son rival comme un va-t-en-guerre. Orban martèle son message sur les réseaux sociaux et dans son empire médiatique. Si nous gagnons les élections, nous resterons en dehors du conflit. Mais si c'est la gauche qui gagne, la Hongrie plongera dans la guerre, dit le Premier ministre dont la photo est omniprésente dans les rues avec ce slogan « Préservons la paix et la sécurité de la Hongrie ». Des mots qui rassurent Cataline, étudiante en communication.
Par rapport à la situation en Ukraine, moi je n'ai pas envie que la Hongrie envoie des armes là-bas. Je soutiens le Fidesz, j'aimerais vraiment que la Hongrie reste en dehors de la guerre.
Joja, une retraitée venue écouter Viktor Orban dans un meeting, est du même avis.
Il ne faut pas qu'on envoie des armes ni des soldats. Moi, je suis là pour soutenir Viktor Orban. C'est le meilleur politicien de toute la planète.
En jouant les pacifistes, Viktor Orban conforte le désir de sécurité des Hongrois. Et cela lui permet de reléguer au second plan son image d'allié du Kremlin. Une posture qui réussit à Viktor Orban. Selon un sondage publié 5 jours avant le scrutin, le parti du Premier ministre remporterait les élections avec 40% des suffrages contre 32% à l'opposition.
Et merci à Florence Labruyère pour ce reportage. Corentin Léotard, quand on entend au début de ce reportage, on devient comme la Russie que disent certains opposants. Vous nous avez bien expliqué comment certaines villes désormais sont acquises à l'opposition. Est-ce qu'il y a vraiment une division dans ce pays qui est aussi basique que les grandes villes et aussi les campagnes? Donc les grandes villes plus vers l'opposition, les campagnes qui restent très fidèles à Viktor Orban.
Oui, ça c'est un phénomène qui n'est pas propre à la Hongrie, mais c'est vrai qu'il est très marqué en Hongrie du fait de sa macrocéphalie, c'est-à-dire de l'importance énorme de Budapest. Ça, c'est un peu Budapest et le désert hongrois. C'est à la différence de la Pologne, par exemple, où il y a quand même tout un réseau de villes secondaires qui sont importantes. Là, Budapest est vraiment un bastion de gauche et libéral. Mais c'est vrai qu'ailleurs dans les campagnes, Le Fidesz d'Orban est quand même très très hégémonique.
Alors la Hongrie forcément a accueilli aussi des réfugiés, à peu près 400 000, un peu moins. On est très très loin évidemment des chiffres polonais et on comprend pourquoi. Mais surtout, on a bien vu que les Polonais à l'occasion de cette crise se rapprochaient de l'Europe beaucoup plus qu'ils ne l'étaient. Donc est-ce que de fait le camp Orban en Europe, là au moins, s'est fissuré? L'alliance même peut-être souvent entre la Hongrie et Pologne, est-ce qu'elle est amoindrie aujourd'hui? Est-ce qu'on irait jusque-là?
Oui, enfin cette nouvelle position géopolitique de Varsovie lui permet de passer au second plan les questions d'état de droit, mais le PiS polonais n'aime pas du tout renoncer à ses atteintes à l'état de droit et ne se conforme toujours pas aux décisions de la Commission européenne. Donc de ce point de vue-là, je serais beaucoup plus prudent. Mais en effet, oui, il y avait toujours ce contentieux entre Budapest et Varsovie qui était vraiment un frein à une alliance totale des deux capitales contre la Commission européenne, qui était vraiment la position de Viktor Orban vis-à-vis de Moscou. Et voilà, le déclenchement de la guerre a vraiment enfoncé un coin entre les deux hommes. Et la réunion qui devait se tenir des ministres de la défense du groupe de Visegrad cette semaine a été purement et simplement annulée parce que les Polonais sont très très fâchés de la neutralité affichée par Viktor Orban et de son refus de soutenir l'Ukraine.
Est-ce que se retrouver isolé, est-ce qu'on dit qu'Orban risque de se retrouver isolé, effectivement, se retrouve de fait isolé face à un front européen en face de lui qui est très uni? Est-ce que ça le pousse, lui, parce que ça reste aussi un homme politique, donc une personne très pragmatique, est-ce que ça le pousse aussi à mettre un peu d'eau dans son vin, et y compris d'ailleurs sur d'autres questions européennes à la suite, est-ce que ça jouera?
Mais Viktor Orban, en fait, depuis un an, il est quand même relativement isolé depuis que le Fidesz a été évincé du Parti Populaire Européen. Donc depuis un an, le parti d'Orban est vraiment sans toit au Parlement Européen et de fait isolé. Et évidemment, ce qui se passe aujourd'hui au niveau diplomatique va renforcer l'isolement d'Orban, qui est en train de perdre, voilà, comme on le disait, même son meilleur allié polonais qui se retourne contre lui. Donc c'est vraiment la question qui va se poser au lendemain des élections en cas de victoire d'Orban, qui est quand même le scénario le plus probable, c'est est-ce qu'il va transiger avec l'Union européenne et négocier, ou se retrouver dans une posture jusqu'au boutiste d'homme isolé qui pourrait peut-être même être tenté de sortir la Hongrie de l'Union européenne, ce qui reste un scénario encore très peu probable, mais qu'on ne peut pas tout à fait exclure.
Mais alors justement, et ce serait la dernière question, Corentin Léotard, au lendemain, comme vous dites, de la campagne, et sachant que dans certains endroits, on l'a bien entendu notamment dans le reportage, la question entre choisir au fond entre l'Est et l'Ouest, entre l'Europe et Poutine, elle aura eu du sens. Est-ce que ce débat-là va rester au-delà du scrutin, au-delà de la guerre? Est-ce que, pour le coup, ça risque de faire effectivement la bouger des lignes pour ce mandat dont certains disaient dans le reportage de Florence Labruyère à l'instant que c'est le dernier mandat, et j'y mets des guillemets, de Viktor Orban?
Non, ça fait pas bouger les lignes, ça renforce les lignes entre deux camps établis, deux groupes d'électeurs qui vont vraiment voter dimanche comme les derniers scrutins sur des questions essentiellement culturelles et qui tiennent à la vision du monde, c'est-à-dire une opposition qui est très pro-européenne et tournée vers l'Occident, et une droite qui est beaucoup plus dans un entre-deux et qui se sent finalement beaucoup plus à l'aise dans un système autoritaire ou semi-autoritaire comme celui que lui propose Viktor Orban.
En tout cas, les élections, donc c'est dimanche le 3 avril. Je rappelle l'ouvrage que vous dirigez, Corentin Léotard, avec le Courrier d'Europe Centrale. Ça s'appelle « La Hongrie sous Orban » aux éditions Plein Jour. Et je vous remercie beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont bien sûr les notes vocales de Caroline Gillet, et puis un détour par Londres. Vous verrez comment travaillent les ONG qui traquent les crimes de guerre en Russie. Et puis sous les radars, Sébastien Legénie.
Un député britannique conservateur révèle qu'il est une personne transgenre, une première au Royaume-Uni.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est vous. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir, on va parler économie circulaire. Fabienne, vous achetez chaque année 26 kilos de vêtements de linge, vous en jetez 11, 1% seulement est recyclé. Alors, eh bien, Bruxelles, que ce soit pour le textile ou tous les autres produits de consommation courante, veut tout changer.
26 kilos, c'est pas moi, je vous le jure. Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. Demain, à la même heure, la Terre entière va avoir les yeux tournés vers le Qatar avec le tirage au sort de la Coupe du Monde de football. On va donc étudier ce pari gagnant pour l'instant du
Allez,
Qatar.
À tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini, il repasse par Londres. Tiens, avec Niloufer Yania, elle est chanteuse et compositrice d'une mère irlando-barbadienne et d'un père turc. Et le mélange, ça donne Stabilize sur France Inter. Et les notes vocales de Caroline Gillet sont là comme chaque soir, dans un train, cette fois pour la Russie. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Chaque jour, grâce à vous Caroline, nous suivons depuis le début de la guerre celles et ceux qui sont dans la guerre et nous racontent leur quotidien. Aujourd'hui, on retrouve Natalia, qui est russe et qui nous donne sa perspective depuis Saint-Pétersbourg.
Oui, et elle a malheureusement perdu son travail à cause des sanctions imposées à la Russie depuis le début de son offensive. Natalia se dit que cette période de chômage offre l'occasion d'aller voir ses parents et grands-parents qui habitent dans le sud du pays à 30 heures de train. Elle dit « Oh, c'est considéré comme pas loin pour nous ». Bon, quand même, d'habitude, elle le fait plutôt en avion. Là, tous les aéroports du sud du pays sont fermés, alors voilà ses messages depuis un compartiment qu'elle partage avec un couple, leur bébé de 8 mois et une partie d'équipe de sport d'adolescentes avec leur coach.
Le train consiste de 2 étages et chaque étage consiste de peut-être 8 ou 9 départements et dans chaque département il y a 4 places. Le train est complet. Pendant le voyage, on est obligé de partager notre département avec les inconnus. Donc vous pouvez imaginer que vous êtes 4 dans le même département, je ne sais pas, 5 mètres carrés, et on est ensemble pendant 300-400 jours. Et bien sûr, on parle beaucoup. Ça s'appelle romantisme de train russe, parce que c'est beaucoup de temps pour connaître les gens. En plus, on ne parle pas beaucoup, parce que si un enfant dort, on essaye de rester calme. Aussi, j'ai parlé avec un employé, il vérifie les billets et quand je lui demandais « Pensez-vous, l'aéroport va être ouvert bientôt ?» et il m'a dit « Non, parce que si cette opération spéciale militaire continue, l'aéroport à Krasnodar, à Rostov, ce sont les villes qui sont très proches à la frontière avec l'Ukraine, vont être fermées. La façon dont il prononce les mots « l'opération spéciale militaire », j'ai compris qu'il est au poste de travail. Il ne peut pas vraiment exprimer ses idées, mais la façon dont il prononce, j'ai compris que c'est un sujet très triste. Et bien sûr, on est tous contre.
Ce qui est dit entre les lignes par Natalia dans son train, on la remercie beaucoup, vraiment, et merci aussi à vous. Caroline Gillet, on vous retrouve lundi, bien sûr.
Le 18-20.
Et pour poursuivre le bruit du monde, allons à Londres auprès d'Amnesty International. Je ne vous apprends pas que la Russie est accusée par de nombreux dirigeants, dont Joe Biden d'ailleurs, de commettre des crimes de guerre en utilisant des bombes à sous-munitions et en bombardant des civils. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête le 2 mars dernier, mais elle ne dispose pas de ses propres moyens de police. Le travail des ONG et de leurs enquêteurs est donc primordial pour traquer les preuves de ces crimes de guerre, le plus souvent à distance, grâce à ce qu'on appelle les sources ouvertes, c'est-à-dire des photos, des vidéos, des images satellites, tout ça disponible sur Internet. Tout ça n'est pas simple, et c'est Géraldine Allot qui raconte de la cellule d'investigation de Radio France.
C'est un modeste bâtiment en briques près de Russell Square. L'ONG Amnesty International y a installé son laboratoire de preuves. Une salle et 2 enquêtrices devant leur ordinateur. Elles scrutent les moindres détails des vidéos en provenance d'Ukraine postées sur les réseaux sociaux.
Là, nous regardons la vidéo d'une attaque dans le nord de Kharkiv. Elle remonte au 28 février.
Sophie, d'ailleurs, est analyste visuelle. Elle recueille toutes les ressources disponibles sur les bombardements en Ukraine. Photos, vidéos, images satellites. Puis elle les modélise en 3 dimensions pour avoir une idée de l'ampleur de l'attaque et du type d'armes utilisées.
C'est possible que des bombes à sous-munitions aient été utilisées. Les bombes à sous-munitions couvrent une zone très large. C'est pour cela qu'elles font autant de victimes en ville.
Pour avoir la certitude que des armes à sous-munitions ont été utilisées, Milena Marine, la directrice du laboratoire, envoie les photos des restes de sous-munitions prises par un témoin sur place à l'un de ses enquêteurs spécialistes des armes. Celui-ci vérifie d'abord que ces images sont authentiques, qu'elles correspondent bien à la guerre actuelle. Il étudie notamment les métadonnées de ces photos, date, heure, voire coordonnées GPS. Puis le laboratoire essaye de répondre à cette question: à qui appartiennent ces bombes ? À à sous-munitions.
Il y a sur les armes des codes ou des dates de fabrication et parfois, comme ici, ils sont visibles.
Là, on voit 0719.
Oui, exactement.
C'est une date de fabrication. Cette arme a été fabriquée en 2019. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est complexe car la Russie a vendu des armes à l'Ukraine. Nos collègues ont étudié les registres de commerce des armes et nous ont dit que ce type d'arme n'avait plus été vendu à l'Ukraine par la Russie depuis 2014, ce qui prouve que c'est la Russie qui les a utilisées.
Or, les armes à sous-munitions sont interdites par la Convention d'Oslo de 2008 et leur utilisation constitue un crime de guerre. Autre crime de guerre potentiel, le bombardement du théâtre de Mariupol, où des centaines d'Ukrainiens s'étaient réfugiés. Amnesty recueille des témoignages en Ukraine auprès des survivants qui ont fui la ville.
Ils nous donnent beaucoup de détails. Ils nous disent où étaient les militaires quand le bombardement a eu lieu, à quelle heure, à quelle date. Ils nous montrent les photos qu'ils ont prises, des photos d'armes, on est en train de les analyser. On enverra ensuite toutes ces preuves à différentes juridictions, dont la Cour pénale internationale.
Mais pour juger des crimes de guerre, il faut en trouver les auteurs. Et c'est la tâche la plus difficile, d'après Elliot Higgins, le fondateur du site d'investigation Bellingcat. C'est une chose de dire que des armes à sous-munitions ont été utilisées, nous dit-il. C'est beaucoup plus compliqué de trouver les donneurs d'ordre. Devant les tribunaux, il faut des preuves, pas des hypothèses.
Géraldine Allot pour le reportage à Londres. Merci beaucoup. Le bruit du monde sous les radars, c'est Sébastien Logénie. Et c'est dans les rues de Pékin, Sébastien, que vous nous emmenez. À Pékin, où a commencé ce matin le procès d'une journaliste australienne.
Elle s'appelle Chen Lai et elle comparaît depuis ce matin, en effet, pour divulgation de secrets d'État à l'étranger. Une accusation grave, mais totalement nébuleuse. On ne sait pratiquement rien des raisons pour lesquelles cette femme de 47 ans, mère de deux enfants, a été emprisonnée, mise au secret il y a 19 mois. Chen Lai a un parcours très atypique. Née en 1975 en Chine, elle a émigré ensuite enfant en Australie. Et elle est revenue dans son pays en 2012 pour devenir l'une des têtes d'affiche de la CGTN, cette chaîne en anglais de la télé publique chinoise qui retransmet à l'étranger le point de vue de Pékin. Après 10 années de bons et loyaux services, Chen Lai est aujourd'hui accusée d'avoir participé à des activités criminelles mettant en danger la sécurité de l'État. L'ambassadeur australien en Chine s'est rendu au tribunal ce matin et a trouvé porte fermée. Sécurité nationale, lui a-t-on répondu. L'ambassadeur australien Graham Fletcher explique qu'il n'a aucune information sur les charges, les allégations contre Madame Cheng. Rien à ce sujet, dit-il, et c'est en partie la raison pour laquelle nous sommes, dit-il, si inquiets, car nous n'avons aucune base pour comprendre pourquoi elle est détenue. S'agit-il de la liberté de ton de Chen Lai, dont le franc-parler tranche, il est vrai, avec ses confrères? Plus vraisemblablement, c'est la très mauvaise relation entre Canberra et Pékin qui est la clé de cette histoire. La Chine considérant l'Australie comme un pion avancé des États-Unis dans le Pacifique. La Chine qui n'a pas du tout aimé, par exemple, en 2019, que l'Australie demande une enquête internationale sur l'origine du Covid-19. C'est peu de temps après que Chen Lai a été arrêtée et elle risque aujourd'hui la perpétuité.
Direction le Brésil, où un élu d'extrême droite, lui, s'est enfermé dans le Parlement pour échapper à la justice.
Ça s'est passé mardi soir. Daniel Silveira, ancien policier, député du parti présidentiel de Bolsonaro, décide de se retrancher dans son bureau au Parlement de Brasilia avec son matelas. Pas question pour lui de se soumettre au juge de la Cour suprême qui l'ont condamné à porter un bracelet électronique. L'affaire fait évidemment la une des médias brésiliens. Il faut dire que Daniel Silveira n'en est pas à son premier coup d'éclat. Ce défenseur de la dictature militaire brésilienne s'est fait connaître l'an dernier en publiant une vidéo truffée d'insultes contre les juges de la Cour suprême, véritable contre-pouvoir au Brésil. Dans cette vidéo, Silveira souhaite notamment voir les magistrats tabassé, je cite, dans la rue. La sanction est tombée, arrestation, prison pendant 11 mois, puis interdiction donc de porter atteinte aux institutions démocratiques, ce que le député très fort en gueule n'a pas respecté, d'où cette nouvelle sanction, un bracelet électronique avec, après une nuit reclue dans son bureau de député, le député a fini par céder, il faut dire que la Cour suprême le menaçait de geler tous ses avoirs et d'une amende de 3000 euros par jour.
On change de parlement, on finit aux communes à Londres où un député Sébastien vient de faire son coming out.
Jamie Willis est devenu hier à 37 ans le premier député britannique conservateur à révéler qu'il était trans. Autrement dit, que le genre assigné à sa naissance ne correspondait pas à celui qu'il ressentait. « Je suis trans », dit-il dans un long post très personnel sur Twitter. « On m'a, précise-t-il, diagnostiqué une dysphorie de genre. Je me sens comme ça depuis très jeune. » On entend là Jamie Willis intervenir aux communes. Ce député du parti des Tories, donc de Boris Johnson, explique avoir voulu partager cette réalité après avoir été l'objet d'un chantage par un homme qui a souhaité révéler son orientation sexuelle à son père. Il raconte également avoir été violé après une rencontre en ligne. Bref, une histoire très intime, très douloureuse, qui a provoqué une vague de soutien chez ses collègues, mais aussi du Premier ministre lui-même, le parti conservateur britannique, pourtant régulièrement épinglé pour son manque d'ouverture aux questions LGBT. Le parti et le pays également marquent peut-être là une nouvelle étape. Il y a 20 ans, en effet, raconte un ancien ministre, le député Willis aurait été harcelé et pas applaudi ni soutenu.
Et probablement, oui. Merci beaucoup, Sébastien Legenis. Vous partez avec Aretha Franklin. C'est pas mal. The Thrill Is Gone from Yesterday's Kiss. C'est dans Un Jour dans le Monde. Is gone, dit Aretha Franklin sur France Inter. Allez, direction Bruxelles, où nous attend Angélique Bois.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, l'Europe qui se met en ordre bataille. Angélique, pour lutter contre la surconsommation, l'obsolescence programmée, la fast fashion en mauvais français dans le texte, et qui veut faire des 27 les champions de l'économie circulaire, en voilà un vaste programme.
Oui, présenté en grande pompe hein, par pas moins de 3 commissaires européens hier, plein d'ambition. Mais franchement, Fabienne, si ces annonces sont rapidement suivies d'effets comme on nous le promet, eh bien c'est une Europe au service des consommateurs hein, dont on va parler, et donc plutôt l'Europe telle qu'on l'aime.
Alors, dites-nous, racontez-nous comment ça marche. Vous avez piqué notre curiosité, allez-y.
Eh bien, la Commission dit vouloir en finir avec, par exemple, ce smartphone qu'il faut jeter parce que sa batterie décline, ce robot de cuisine qu'il faut changer parce que son moteur a grillé, ou encore ces t-shirts hein, qui ont des trous après 3 lavages. Secteur par secteur, elle veut imposer à la fois des normes de production plus écologiques, mais aussi plus de transparence, hein, comme on l'a fait avec l'électroménager, cette classification de A à G qui nous permet de savoir quand on achète un frigo s'il ne sera, par exemple, pas trop gourmand en énergie. La Commission veut ajouter néanmoins plein d'autres critères. Prenons l'exemple du textile, qui sera l'un des premiers secteurs concernés. Grâce à un QR code qu'on trouverait sur l'étiquette, eh bien, on saura si la petite robe que vous avez achetée pour l'été, Fabienne, a été fabriquée avec du tissu recyclé, son pourcentage. On connaîtra aussi son taux de microbilles de plastique, il y en a plein nos vêtements, ou encore si son fabricant s'est engagé, par exemple, à ne pas détruire ses invendus et à les recycler. La commission s'attaque à ce qu'elle considère comme un fléau, hein, cette mode éphémère. Et voilà 3 chiffres hein, qui font froid dans le dos. En moyenne, un Européen achète 26 kilos de vêtements ou de linge de maison par an. On en jette 11. 1% seulement est recyclé. 35% des microplastiques relâchés dans l'environnement sont issus de tissus à base de polyester ou d'acrylique, hein, selon la Commission. Et puis, un dernier chiffre pour vous achever. Eh bien, dans le monde, la production de textiles, eh bien, elle a doublé entre 2000 et 2015. Sans mesure, ça ne va pas s'améliorer. Cette nouvelle législation va à la fois donc obliger les fabricants à verdir leur mode de production, mais aussi à nous donner, à nous, des informations plus claires pour nous permettre d'acheter du plus durable, du plus réparable et des produits meilleurs pour la planète.
Mais alors, cette généralisation de l'économie circulaire, Angélique, va se décliner dans d'autres secteurs?
Oui, dans les matériaux de construction, qui a été annoncé comme un secteur prioritaire avec le textile. Ensuite, on aura des règles d'ici la fin de l'année pour les meubles, les matelas, les pneus, les peintures. Viendront ensuite les matériels électroniques hein, pour lutter en particulier contre l'obsolescence programmée. Et puis à terme, nous promettons tous les produits de consommation courante. Il faut en finir avec certaines pratiques, a martelé hier le vice-président de la Commission, Frans Timmermans.
Nous voulons mettre fin au modèle fabriqué, utilisé, cassé et jeté. C'est l'avenir de notre économie. C'est bon pour les consommateurs, c'est bon pour le climat, c'est aussi une bonne chose pour votre portefeuille. Vous dépensez moins et puis cela permettra de réduire la consommation énergétique, moins d'argent dans la poche de Poutine et plus d'argent dans notre poche à nous. C'est une très bonne proposition.
Et l'idée, eh bien, sera donc d'avoir un smartphone dont on pourra connaître la durée de vie de la batterie, un lave-linge dont le fabricant devra s'engager à nous dire sur ce fameux QR code quelles sont les pièces détachées disponibles, par exemple, car l'Europe veut aussi devenir la championne du monde de la réparation, du recyclage, avec, nous promettons, beaucoup d'emplois à la clé.
Mais alors, Angélique, comment on fait pour imposer à Apple, à Samsung, aux fabricants chinois de vêtements de changer de pratique?
Eh bien, on a posé hier la question, vous vous en doutez bien. Voici la réponse de Frans Timmermans.
Si vous voulez entrer dans le marché unique européen, vous devez en appliquer les règles. C'est aussi simple que cela. Et ce marché de plus de 450 millions de consommateurs est tel que les grosses firmes ne veulent pas fabriquer des produits différents parce que ça coûte trop cher. Alors elles s'alignent sur les normes les plus hautes.
Voilà, c'est ce qui s'est produit, insiste le commissaire, avec l'électroménager ces dernières années, qui, selon ses chiffres, a permis d'économiser en quelques années l'équivalent de la consommation énergétique annuelle d'un pays comme la Pologne. Alors tout ça ne va pas se mettre en place sans douleur, Fabienne, à horizon 2030. Il va y avoir des négociations difficiles avec les États soumis à la pression des industriels, mais on est poussé par le vent, insiste la commission.
Et on suivra ça grâce à vous. Merci beaucoup, Angélique Boin, et à jeudi prochain.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Four, l'événement international de demain en fin d'après-midi qui va éclipser la guerre en Ukraine, attirer l'attention de quasiment toute la planète, c'est le tirage au sort de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Le petit émirat du Golfe est parti pour réussir son pari, dites-vous, surmonter les controverses, devenir le centre du monde, et c'est votre monde d'après.
Le Qatar, c'est un confetti sur la carte du monde. À peine 3 millions d'habitants, à peine plus grand qu'un département français, 160 km de long sur 80. Mais ce confetti occupe une place grandissante. Le temps de la surprise, souvenez-vous, provoqué en 2010 par sa désignation comme pays hôte du mondial, semble loin. Même le temps où il était question d'un boycott de la compétition semble loin. loin. Pourtant, c'était il y a seulement 12 mois, la Norvège et le Danemark avaient lancé l'idée. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Et demain, donc à 19h, 18h à heure de Paris, au moment du tirage au sort de la compétition, tous les projecteurs vont se braquer sur Doha. Ses gratte-ciels futuristes, son métro dernière génération, ses musées ultramodernes et bien sûr ses 8 stades flambant neufs, tous sortis de terre en un temps record pour pouvoir accueillir la Coupe du Monde à la fin de cette année. En particulier, le plus spectaculaire d'entre eux, celui de Losail, l'écrin de la finale. Il a la forme du bol traditionnel pour offrir les dates. Il est entièrement climatisé. Une prouesse technique. Demain soir, l'émir du Qatar, le cher Tamim Altani, passionné de sport, va pouvoir savourer les lumières des projecteurs et présenter Al Rihla, le voyageur. C'est le petit nom du ballon de la compétition, aux couleurs bleues, rouge et or. La terre entière va regarder le Qatar. Le pari, oui, est pour l'instant gagné.
Mais alors pourtant, il y a quand même pas mal de motifs de controverse.
Hein, ouais, il y en a au moins 3 et de taille. Le premier concerne les soupçons de corruption autour de l'attribution de la Coupe du Monde à l'Émirat. En 2014, une commission d'enquête de la FIFA n'a rien trouvé de concluant, si ce n'est des comportements douteux. Mais une enquête reste ouverte en Suisse pour blanchiment d'argent et une autre en France pour corruption. Rappelons que les patrons du football mondial à l'époque étaient Suisses et Français, Sepp Blatter et Michel Platini. Deuxième sujet, les conditions de travail des migrants, Philippins, Indiens, Bangladais, Kenyans. Il y a un peu plus d'un an, le quotidien britannique The Guardian avait avancé le chiffre de 6500 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde en raison des températures extrêmes et des cadences infernales. Le Qatar réfute catégoriquement ce chiffre. Il reconnaît 37 victimes et il a pris soin de modifier le droit du travail ces derniers mois. Instauration d'un salaire minimum, suppression progressive de la kefala, une sorte de soumission à l'employeur. Mais de nombreux ouvriers continuent d'être exploités. Troisième source de controverse, le coût environnemental. C'est curieusement la polémique la moins médiatisée, alors que l'incohérence saute aux yeux. Une telle compétition, avec 1 million de supporters attendus dans un pays au climat désertique, implique des dépenses et une pollution peu compatibles avec la priorité planétaire de la lutte contre le réchauffement climatique.
Et donc, toutes ces controverses, elles ont disparu du paysage.
Le Qatar n'est pas à l'abri de nouvelles polémiques d'ici à la compétition en novembre. C'est le prix à payer pour chercher la lumière des projecteurs. Mais pour l'instant, en effet, vu de Doha, pas d'avis de tempête. Sans doute parce que la puissance du Qatar dépasse la diplomatie du sport. C'est le fruit de sa stratégie du carnet de chèques. Le Qatar vend du gaz, beaucoup de gaz. Il possède les 3e réserves mondiales, une mine d'or. Et il achète beaucoup aussi, pas seulement des clubs de foot comme le PSG, des hôtels, des participations dans des grandes entreprises, LVMH, Lagardère. Il possède une énorme compagnie d'aviation, 230 appareils Qatar Airways et un conglomérat médiatique Al Jazeera. C'est aussi le fruit de son habileté diplomatique. Longtemps montré du doigt pour ses liens avec les frères musulmans, le Qatar s'est peu à peu forgé une image de neutralité. Il se voit comme une Suisse du 21e siècle, un médiateur qui parle à tout le monde, les Chinois comme les Européens, les Russes comme les Américains. Et dans la région, il échange aussi bien avec l'Iran que les talibans afghans. Il a même réussi à faire plier l'embargo imposé par ses grands voisins et rivaux, Arabie Saoudite, Émirats. C'est une réussite spectaculaire. C'est pour ça que la FIFA est plus prompte à bannir les footballeurs russes qu'à esquisser une critique du Qatar. Et c'est comme ça que ce micro-État va se retrouver cette année avec le ballon rond au centre du monde, précisément là où souhaite se trouver son émir.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. La suite dans le 18-20, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne, ne changez rien.